Radio Okapi.
Blaise Chinani Kambala à la présentation. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voici d'abord les titres de ce journal. Les réfugiés congolais vivant dans les camps au Burundi et en Tanzanie ont reçu la visite d'une équipe gouvernementale conduite par la ministre des Affaires sociales Eve Bazaïba. Ils ont apporté une assistance en vivres et non-vivres pouvant couvrir 2 semaines selon la représentante du HCR au Burundi. Toutefois, le HCR indique que les besoins demeurent encore énormes. Au Nord Kivu, un glissement de terrain survenu ce mardi à 1h du matin dans le territoire de Walikale a fait au moins 9 morts et une dizaine d'autres portées disparues selon des sources coutumières locales. Selon les acheteurs, 33 millions de dollars américains sont nécessaires pour assurer une prise en charge holistique de plus de 250 000 réfugiés congolais présents sur les territoires burundais, dont près de 30 000 enfants non scolarisés. Pour en parler, nous recevons Madame Mukanga Brigitte, qui est la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burundi. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Après avoir reçu une assistance en vivres et non vivres de la part du gouvernement congolais, les réfugiés congolais installés dans les camps au Burundi et en Tanzanie se disent soulagés, même si cette aide ne couvrira leurs besoins que pour une courte période. La délégation gouvernementale était conduite par la ministre des Affaires sociales Eve Bazaïba. Selon la représentante du HCR au Burundi, cette assistance permettra de couvrir environ 2 semaines de besoins. Le HCR rappelle toutefois que les besoins restent considérables et qu'un financement de 33 millions de dollars américains est nécessaire pour assurer la prise en charge de quelques 250 000 réfugiés congolais accueillis au Burundi. Plus de détails avec Jean Kassami.
L'assistance humanitaire apportée aux réfugiés vivant au Burundi par le gouvernement souminois était constituée des haricots, des riz, des farines, de maïs, des soja, du sel et de l'huile de palme ainsi que d'autres produits de première nécessité. Ces réfugiés s'est dit soulagés.
Le gouvernement nous a assistés. Nous sommes réjouis, mais l'assistance du gouvernement peut juste nous rassurer une survie d'une à deux semaines par après. Comment est-ce qu'on pourra survivre? C'est pas à dire que nous pouvions demeurer réfugiés. Nous avons juste besoin de la paix pour que nous rentrons chez nous, parce que ici, les conditions de vie ne sont pas vraiment réunies. C'est une aide qui est temporaire. Comment est-ce qu'on va survivre avec autant de membres de nos familles avec qui nous sommes ici? Ils doivent faire encore plus pour nous rassurer, ne fût-ce que la paix, parce qu'on doit aussi rentrer chez nous.
La représentante du HCR au Burundi salue ce geste de solidarité du gouvernement, un geste qui, selon ses responsables, va soulager les bénéficiaires durant 2 semaines. Après le Burundi, la délégation du gouvernement de la RDC s'est rendue en Tanzanie au camp des réfugiés de Kigoma. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Ici au pays, à Lubumbashi, la police a présenté ce week-end 7 présumés bandits des grands chemins, ainsi que 2 femmes soupçonnées de recel dans le cadre de l'opération Ndobo. Selon les autorités policières, ce groupe de présumés criminels était activement recherché depuis plusieurs semaines. La police précise que l'un des suspects, connu sous le surnom de Jaguar, est accusé d'avoir tué un militaire des FARDC. L'arme de la victime figure parmi les objets saisis lors de l'opération. Cette bande aurait opéré dans plusieurs villes des provinces du Tanganyika, du Haut-Katanga et du Kasaï oriental. Paul Munanga.
La police accuse ces présumés criminels de vols qualifiés, meurtres, association des malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Ils ont été arrêtés dans la maison de Madame Tshibalonza Mwape, alias Fomer, au camp militaire Major Vangu de Lubumbashi. D'après la police, les malfrats se regroupent souvent chez cette femme avant d'aller opérer. Cette dernière est une multirécidiviste. Elle a été plusieurs fois arrêtée pour recel d'objets volés et recel des malfaiteurs, mais elle a toujours été relâchée, s'indigne la police. Les présumés bandits avaient en leur possession 3 armes AK-47, 7 chargeurs garnis, des ordinateurs portables, 25 téléphones cellulaires, 3 montres, des congélateurs, une importante quantité de boissons fortement alcoolisées et plusieurs autres biens de valeur volés dans différentes alimentations. Cette bande est accusée par la police d'avoir opéré dans plusieurs villes. C'est notamment à Kalemi, Kolwezi, Fungurume, Mbujimayi, Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et Kambov. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Province du Haut-Lomami, l'ONG Justicia ASBL dénonce l'usage excessif de la force par les militaires des FARDC face à une population civile non armée lors des incidents qui se sont passés ce dimanche à Bukama. D'après cette ONG, les militaires des FARDC ont usé des armes lourdes pour s'en prendre à une population civile non armée dans la cité de Bukama et sous un prétexte fallacieux d'une attaque des miliciens Maïmaï. Dans un communiqué de presse lundi, Justicia ASBL exige que des mesures fortes soient prises contre les violations des droits humains commises dans la cité de Bukama. Maître Timothée Mbouya, président national des Justicia ASBL, les dit au micro de Radio Okapi.
Comme vous le savez, en date du 17 novembre 2025, il y a eu effondrement d'une mine dans la carrière de Mulondo, en province du Lualaba, avec comme conséquence la mort de plus de 32 exploitants artisanaux qui vivaient principalement des retombées issues de l'activité d'exploitation artisanale de la dite mine. Le deuxième point, c'est l'arrêté pris par le ministre national des Mines, en date du 19 décembre 2025, suspendant les activités minières et la commercialisation des substances minières de toutes entités de traitement issues de l'exploitation artisanale de la filière cuprocobaltifère. L'impérieuse nécessité pour l'Assemblée nationale de recueillir des amples détails sur les circonstances exactes, les causes majeures et les conséquences de l'effondrement de la dite mine, ainsi que sur l'impact de la mesure portant suspension des activités minières et de la commercialisation des entités de traitement des substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière cuprocobaltifère. Voilà, nous nous retrouvons ici au Lualaba pour des enquêtes approfondies et remonter le rapport à la haute hiérarchie pour que les responsabilités soient partagées et que la quiétude sociale soit rétablie dans cette province économiquement importante de notre République.
Je le disais en titre, au Nord Kivu, un glissement de terrain survenu vers 1h du matin ce mardi a fait plusieurs victimes dans le village de Buruchi, situé dans la localité de Kachebere, au sein du groupement Luberike, dans le territoire de Walikale. Selon des sources coutumières locales, les bilans provisoires fait état d'au moins 9 personnes tuées et une dizaine d'autres portées disparues. Bernadette Nyangi pour les détails.
Cependant, une forte pluie qui s'abattait dans la zone depuis 18h locale hier lundi, qu'autour d'une heure du matin ce mardi, une masse importante de terre s'est détachée de la colline surplombant le village de Buruti. Selon le chef du groupement Luberike, les éboulis ont tout emporté sur leur passage, des arbres, une dizaine de maisons, ainsi que leurs occupants qui dormaient encore. Un tronçon de la route Goma-Massissi-Walikale a également été enseveli par cet éboulement qui a fini sa course vers le fond de la vallée, couvrant un espace d'environ un hectare. Ce cadre coutumier avance un bilan provisoire de 9 personnes tuées, dont au moins 5 enfants, une dizaine d'autres disparus et plusieurs blessés. À cela s'ajoutent d'importants dégâts matériels, notamment la coupure du trafic à ce niveau, selon l'ONG locale, groupe d'action pour la protection de l'enfant. Depuis la matinée, après que la pluie a cessé de pleuvoir, les habitants de cette localité sous occupation de l'AFCM-23 sont mobilisés pour rechercher les corps des disparus dans les décombres et les éboulis.
Dans la ville de Boma, Congo central, les tenanciers des kiosques, bistrots et autres hangars installés de manière anarchique le long du boulevard Joseph Kasavubu ont jusqu'au 20 janvier pour procéder volontairement à la démolition de leurs structures. Dans un communiqué officiel rendu public lundi 12 janvier, la mairie de Boma annonce la fin imminente du moratoire accordé aux occupants de cette artère stratégique. Selon ces documents, la maire ad intérim, maire Claudel Pembakiadi, explique que cette opération vise à supprimer les installations érigées en violation des normes urbanistiques afin de redorer l'image de la ville et de libérer une emprise publique longtemps obstruée par des activités commerciales. Nana Plurich Mambou, reportage.
D'après les communiqués, l'opération de déguerpissement forcé initialement prévue le 16 janvier est reportée au 20 janvier en raison du caractère chômé de la journée du 16. Sont concernés les propriétaires des maisons commerciales, hangars, kiosques et autres édifices construits de manière irrégulière sur l'espace public situé de part et d'autre du boulevard Joseph Kasavubu à partir du pont-ville. Les occupants qui se conformeront à cette mesure d'assainissement pourront récupérer leurs matériaux, notamment les planches et les tôles, avant l'expiration du délai fixé. Passé ces délais, les installations restantes seront détruites par brûlage sur place. Pour ce qui est des constructions en dur, la mairie précise que chaque cas fera objet d'un examen particulier après l'identification des responsables. La mairie rappelle enfin qu'au-delà des problèmes d'insalubrité, les occupations anarchiques enfreignent les normes urbanistiques, bloquent les trottoirs et rétrécissent la chaussée. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Au Kasaï central, pendant ces temps, les travaux de lutte anti-érosive ont été officiellement lancés lundi à Kananga sur le site point kilométrique 706 dans la commune de Lukonga. Ces interventions s'inscrivent dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga Puruk, financé par la Banque mondiale. Leur exécution est prévue pour une durée de 3 mois. André Katendenga Lamouloumé pour les détails.
Les travaux engagés visent à protéger les infrastructures ainsi que les habitations situées autour du ravin, a expliqué Jean-Michel Mbungu, coordonnateur ad intérim du PURIC. Parmi les infrastructures menacées figurent la voie ferrée et la route nationale numéro 41 qui relie Kananga au territoire d'Ilebo, toutes deux déjà coupées par l'avancée du ravin.
Ces interventions permettront de protéger les infrastructures d'utilité publique majeure, notamment le chemin de fer, sans oublier les nombreuses habitations des populations riveraines.
Le lancement officiel a été effectué par le gouverneur des provinces, Joseph Moïse Kamboulou. Il a exhorté l'entreprise SIFEC, chargée de l'exécution, à respecter les normes techniques et les délais impartis.
À l'entreprise exécutante de respecter les normes techniques et surtout les délais, pour que ce ne soit pas des travaux qui ne terminent jamais.
Financé à hauteur de 5 millions de dollars par la Banque mondiale, le PURIC a pour objectif principal de lutter contre les érosions qui menacent plusieurs quartiers de la ville de Kananga. Kananga, André Katendengalamoulmé, Radio Kapi.
Les agents du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa ont entamé une grève depuis hier lundi. Selon le président du comité de base de ces ministères, les grévistes réclament notamment la publication de l'état liquidatif de la paie complémentaire ainsi que l'alignement salarial de plus de 200 agents. On écoute les explications de Gianni Kazimbere Tatou au micro de Moudoumbi Benjamin.
Nous réclamons l'insertion dans l'état liquidatif de notre paye complémentaire au T1 2026. Au T4 2024, on avait déjà imprimé le listing au niveau de la direction des payes, mais le ministre des Finances, Doudou Fouamba, avait suggéré qu'on puisse l'insérer au moins au T1 2026 en signant un PV qui démontre tout. Mais là, nous avons fermé nos portes tout en accusant le ministre des Finances qui n'a pas respecté ses engagements. En tout cas, avec l'insertion dans l'état liquidatif, ainsi que le paiement de nos payés, ainsi que nos 20%. Mais actuellement, nous réclamons d'abord l'insertion dans l'état liquidatif. Ça va nous permettre de mécaniser encore d'autres agents qui sont non payés. C'est pour cela que nous lançons un appel au premier diplomate qui est le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi-Antoine Tshilombo, pour instruire le ministre des Finances de nous insérer notre paie complémentaire dans l'état éducatif dès 1-2026.
Radio Kapi a tenté enfin d'avoir la réaction du cabinet de la ministre des Affaires étrangères. Situation similaire dans la province de la Tchopo où les enseignants du territoire d'Opala ont entamé une grève depuis lundi 12 janvier. Selon leurs représentants, ils ne reprendront les cours qu'une fois l'ensemble de leurs revendications entièrement satisfaites. Cette cessation des activités intervient alors que la Caritas affirme disposer déjà de 2 mois de salaire, ceux d'octobre et de novembre 2025, sur les 3 mois réclamés par les enseignants. Comment expliquer le durcissement de leur position? Les précisions avec Jacques Moukonkolé.
Jusque-là, les revendications des enseignants d'Opala portaient sur le retard de paiement de leur salaire. Actuellement, ils n'ont pas encore touché les mois d'octobre, novembre et décembre 2025, ce qui a occasionné une marche de dénonciation vendredi dernier. Sitôt après, la Caritas annonce la réception du mois d'octobre, ce qui porte à deux le nombre de mois disponibles pour le paiement des salaires d'octobre et novembre. Cette annonce n'a pas suffi pour calmer la tension des enseignants. Ils ont déterré en plus un vieux litige de février 2024. En effet, ce salaire a disparu jusqu'à ces jours, selon leurs propres termes devant l'administrateur du territoire. C'est pourquoi ils exigent absolument le paiement intégral de tous les mois en souffrance. Hormis ces revendications, les enseignants déclarent le divorce d'avec leur agent payeur. Ils exigent donc leur délocalisation de la Caritas au profit d'une autre institution financière. Rappelons que la Caritas a déclaré le week-end dernier disposer des deux mois, octobre et novembre, pour le paiement des enseignants. Celui de décembre est toujours attendu du gouvernement, avait affirmé l'abbé Célestin Osandu, membre du conseil d'administration de la Caritas Isangi. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le gouvernement du Gabon a levé les mesures gouvernementales prises à l'encontre de l'équipe nationale de football, ainsi que la mise à l'écart des joueurs Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekwele Manga, a annoncé la fédération gabonaise dans un communiqué de presse lundi 12 janvier. À 36 ans, Idrissa Ganagay incarne la longévité et la constance dans une équipe nationale du Sénégal qui vise une deuxième étoile au Maroc. Recordman des sélections, guide des jeunes, modèle sur les terrains, Ganagay reste un capitaine sans brassard et un joueur indispensable dans l'équipe qui défiera l'Égypte ce mercredi 14 janvier en demi-finale à Tanger.
L'invité.
L'invité du journal, c'est Mukanga Brigitte. Elle est la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Burundi. Elle revient sur les conditions de vie des milliers de réfugiés congolais installés dans le pays. Selon les HCR, 33 millions de dollars américains sont nécessaires pour assurer une prise en charge holistique de plus de 250 000 réfugiés congolais présents sur les territoires burundais, dont près de 30 000 enfants non scolarisé. Mukanga Brigitte apporte des précisions au micro de Jean Kassami.
Madame Mukanga Brigitte, bonjour.
Bonjour Monsieur Kassami, merci beaucoup pour votre appel.
Le Burundi a accueilli un grand nombre de réfugiés congolais en train de fuir les hostilités, surtout dans Uvira et Fizi. Comment les ACR se comportent-ils pour essayer d'apaiser la misère de cette population?
Comme vous le savez, c'est au début du mois de décembre, précisément autour du 5 décembre, que nous avons commencé à recevoir ici un grand afflux de réfugiés en provenance du Sud Kivu. Et à cause de la crise, évidemment, qui se passe dans cette région du Congo. À ce jour, le total des personnes qui sont arrivées ici s'élève à environ 101 000 personnes, sur lesquelles il y avait 10 000 personnes qui sont des Burundais, et donc les 90 000 autres sont des Congolais.
Certes que la prise en charge d'un grand nombre de réfugiés n'est pas aussi aisée. Les ACR disposent-ils de moyens adéquats pour faire face aux besoins de ces réfugiés congolais installés au Burundi?
Pour les Congolais, le gouvernement du Burundi, à qui je voudrais dire merci à cette occasion, a été très généreux en ouvrant ses frontières et aussi en accordant des portions de terre qui ont été allouées pour l'installation du site de Mousseni, où se trouve actuellement 67 000 personnes sur les 90 000 qui sont arrivées et donc qui sont au niveau du site de Boussouma. Ce site nous a permis de commencer à organiser l'assistance qui répond aux standards, notamment les réfugiés ont pu recevoir des abris plus décents que dans les centres de transit où ils se trouvaient, et également les soins médicaux ont été apportés, etc. Mais bien sûr, ce n'est pas encore suffisant parce que le nombre de personnes qui sont arrivées, et c'était en fin d'année, à un moment où il y avait plus de budget pour la plupart des agences, y inclut le HCR, donc c'était vraiment assez difficile d'organiser l'assistance au départ. Mais nous apprécions énormément l'assistance que nous avons reçue de quelques donateurs, particulièrement en premier lieu c'était l'Union européenne qui nous a permis déjà de viabiliser ce site.
Dernièrement, une délégation congolaise a effectué une mission à Bujumbura avec dans son paquet quelques quantités de vivres au profit de ces réfugiés-là. Est-ce que la quantité reçue pourrait couvrir une certaine période permettant au ACER à réunir d'autres moyens nécessaires?
Nous avons reçu la semaine dernière une délégation des ministres de la RDC, Madame Bazaïba, la ministre des Affaires sociales. Nous avons reçu également le ministre délégué pour les Congolais de l'étranger et aussi le ministre des Droits humains qui était représenté et les membres de leur délégation. Et ça a été vraiment un moment très fort pour les réfugiés de voir les autorités qui sont venues de leur pays pour leur apporter ce réconfort. Ils ont beaucoup apprécié parce que pour beaucoup, ils se disaient qu'ils avaient été abandonnés par leur propre pays. Et donc, cette visite est venue vraiment les consoler pour certains. Mais également, la délégation a amené de l'assistance, donc des vivres et des non-vivres, pour lesquels nous avons déjà commencé la distribution au niveau de ce site. Et nous pensons d'ici la semaine prochaine, nous allons compléter la distribution, ce qui est une très, très bonne chose. Nous pensons que ça pourra servir peut-être pour les deux prochains mois, en attendant que d'autres sources, que nous puissions continuer, bien sûr, à chercher des ressources pour continuer à assister ces réfugiés. Un message fort qui est sorti quand même pendant cette visite, c'est que les réfugiés, ils ont demandé aux autorités directement qu'ils voudraient rentrer au pays le plus vite possible. Et donc, les autorités ont également promis qu'ils vont continuer à travailler dans les cadres des processus, les différents processus de paix pour permettre aux réfugiés de pouvoir rentrer chez eux dans la paix et la sécurité.
Madame Mukanga Brigitte, merci.
Je vous remercie.
C'était donc notre invité Mukanga Brigitte qui s'entretenait avec Jean Kassami. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal Parler de la mi-journée qui a connu la coordination et la supervision éditoriale d'Alain Irongo Mochinge et la mise en onde était assurée par Alain Goy. Ce journal est aussi disponible sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et bonne suite des programmes sur votre radio.